Peut-être avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on puisse remettre le message et la parole qu'elle puisse parler à nos cœurs. Seigneur, merci énormément pour ce privilège d'avoir été saisi par toi, arraché à ce présent siècle. Merci de nous avoir vaincus, de nous avoir ramenés, Seigneur Dieu, à ta croix, d'avoir payé pour nous, Seigneur Dieu, cette dette immense qu'on avait envers ton Père, envers Dieu. D'avoir mis à notre compte ta justice et d'avoir mis à ton compte nos fautes, nos péchés, tout ce qui nous séparait de Dieu, tout ce qu'on comprend, même tout ce qu'on ne comprend pas, Seigneur. Merci d'avoir ressuscité physiquement, montrant maintenant que la dette a réellement été payée, la nouvelle création est vraiment commencée, qui était le prémisse, le premier de plusieurs qui s'en viennent. Merci pour cette espérance de savoir que maintenant même, tu es auprès de ton Père, tu as reçu de lui la toute-puissance, l'autorité finale sur toute chose. Et Seigneur Dieu, on te demande encore une fois que selon ta promesse, ton esprit puisse nous éclairer, nous délivrer, nous faire marcher davantage dans ta lumière, d'être encore plus profondément en communion avec toi, et nous rappelant toujours que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Merci, comme Damien l'a rappelé, le côté vraiment précieux du corps de Christ, de faire partie de ce corps, de ce peuple. Comme Paul le rappelle aux anciens, lorsqu'il donnait ses dernières recommandations à Milet, ce peuple que tu t'es racheté par ton propre sang. Alors, Seigneur Jésus, merci aujourd'hui de nous diriger, nous éclairer, afin que tout le monde puisse sortir d'ici aujourd'hui en ayant entendu une parole de toi, Seigneur Dieu. Car ta parole fait vivre. Alors, Seigneur Dieu, on a besoin de cette parole éclairée par ton esprit. Fait que merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. On est, dans le sens, quand on est ensemble, dans Actes. Et puis, c'est quand même intéressant de voir la coordination que le Seigneur produit dans l'Assemblée, parce que Pasteur Réal, dans les études du mercredi soir, qui sont en passant très intéressantes, vraiment bon, nous parle sur ce fameux mystère pour nous, mais qui est une vérité à recevoir, puis selon laquelle notre comportement doit être finalement tracé, dans le sens comment on vit de cette vérité, qui est la souveraineté de Dieu, son élection, et en même temps, la responsabilité humaine. Comment on est responsable de nos choix, comment on est responsable de nos vies, fait que c'est pas... On doit vraiment éviter le piège du fatalisme, de penser que bon ben il n'y a rien d'autre à faire, je suis programmé d'avance, pas du tout. Sinon, il n'y aurait pas de jugement. Dieu n'amènerait pas le monde en jugement si on n'était pas responsable. Mais inévitablement, quand on pense de responsabilité, on pense que donc Dieu est passif. Il a fait sa job, il est parti au ciel, puis après ça, il laisse la lettre, il envoie ses messagers, puis il dit en passant, ceux qui veulent viennent, c'est payé. Pas du tout. Il est aussi souverain. Parce que on est tellement dans une nature rebelle que si ce n'était pas de son travail, aucun de nous serait ici ce matin. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'être ici. Mais oui, on a vécu le choix d'avoir décidé d'être ici puis d'avoir décidé de recevoir Jésus-Christ. Mais il y a un secret de famille qui est, je vais te montrer par contre, pourquoi maintenant tu me suis. Et c'est un peu la même leçon comme on l'a vu lorsqu'on faisait l'Évangile de Jean. Quand l'apôtre Pierre, après avoir entendu le Seigneur dire « Maintenant, vous ne voulez pas partir comme le restant de la foule » et même les disciples. Et Pierre va parler de son point de vue, l'expérience que lui fait. Il dit « À qui tu veux qu'on aille ?» Il était vraiment convaincu, c'était clair, net et précis, qu'il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'espérance possible en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a rien. Ça ne peut pas être l'aspect politique de nos cités qui vont nous sauver. À la limite, s'ils peuvent juste bien gérer, puis que les ponts ne tombent pas, on va être contents, tu comprends? Mais c'est pas si. En réalité, ce ne serait pas si compliqué de juste être sous le règne de Jésus-Christ, un gouvernement qui gère les choses, simplement, sans toujours espérer d'amener un genre d'évangile. On ne peut pas non plus s'attendre à ce que l'éducation nous sauve. On développe des meilleurs moyens, on a une plus grande prospérité que jamais. Mais juste pour manifester notre folie, encore plus, c'est tout. On a vu finalement le désastre que le monde subit, que ce soit le désastre humain, si on compare avec les désastres, entre guillemets, « act of God ». Je trouve que le désastre humain, il est vraiment violent et terrible. Et toute cette violence, étrangement, se fait au nom de la justice. Il y a une violence sur Terre absolument inouïe, et tout le monde se fait massacrer au nom d'un système religieux, d'un système légal, d'un système politique, au nom de quelque chose que moi je trouve tellement juste que ça vaut la peine que je sacrifie des vies humaines sur cet autel de ma justice. Et ça, c'est la justice humaine. La justice humaine qui est soutenue puis maintenue par la loi, et même la loi de Dieu, va amener au bout du compte la mort. Si la loi fait son travail, dans toute sa justice, et même dans toute la justice de Dieu, eh bien, aucun de nous ne peut en sortir. On va tous finir morts. Par contre, Dieu nous donne une justice étrange, la sienne. Et sa justice fait que ce peuple, lorsqu'il est saisi de cette justice, parce que c'est la justice de Dieu qui doit nous saisir, celle qui vient que, oui, notre condamnation, elle est juste. Donc, ce n'est pas une question d'annuler ce que la loi condamne. C'est au contraire de découvrir de plus en plus à quel point on est condamnable. Fait que souvent, les chrétiens ont bien commencé parce que le Saint-Esprit avait travaillé nos vies pour qu'on puisse vraiment chercher une solution à un problème dans nos vies. Et ça nous a amené à la croix du calvaire. Quelqu'un nous a annoncé l'Évangile. On a cru. On a commencé à goûter cette paix, un peu comme Damien parlait de cette paix, de ce repos. C'est le travail d'un autre qui a été fait à notre place. Fait qu'on est rentré dans un repos, dans une paix. On a cru le pardon. Mais le problème, souvent, c'est que beaucoup d'entre nous, on va plafonner assez rapidement. Nos vies chrétiennes vont devenir un petit peu tièdes parce qu'on ne veut plus poursuivre la marche. Puis attention, je ne parle pas ici d'essayer de devenir meilleur. Je sais que je reviens souvent là-dessus, puis je vous écœure avec ça, mais c'est que je ne suis vraiment pas sûr qu'on l'ait compris. C'est pour ça que je vais revenir. Puis si vous comprenez ce que je comprends, vous essayez de nous faire comprendre, bien, vous êtes content. Fait que si vous n'êtes pas content, ça s'en vient. Lâchez pas. À un moment donné, vous allez comprendre, vous allez être content. Ce qui nous motive à marcher avec Dieu, ce qui motive de donner nos vies, de nous offrir, d'aller de l'avant, dans toutes sortes de manières, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant. Mais être reconnaissant, c'est que ça reconnaît quelque chose. Et d'être aimé, si vous pensez que c'est légitime, ben vous ne trouvez pas ça spécial. T'sais, si par exemple, je ne sais pas, moi, votre époux, votre épouse, vos enfants vous aiment, mais que vous vous désarmez, comme ce n'est pas permis, pour essayer de faire le maximum pour qu'ils vous aiment, vous avez l'impression que c'est la moindre des choses. Pas vrai? Toutes les mères aujourd'hui qui ne recevront pas une petite carte ou un appel d'un fils ingrat, ça, il faut que je l'appelle absolument en arrivant à ma mère. Faut sûrement dire, pour tout ce que j'ai fait pour lui, il ne peut pas avoir là de la reconnaissance. Elle s'attend à ce que moi j'ai de la reconnaissance puis que je dise aujourd'hui. Pas avec raison, en passant, avec raison. Mais devant Dieu, on ne peut pas avoir de dire à Dieu, j'espère que tu es reconnaissant que je marche avec toi, là. Non, mais écoute, personne ne te recevait, tout le monde riait de toi, les comiques rient de toi, la société se moque de toi. Et puis, tu as toujours l'impression qu'on a reçu Jésus comme Marie avec Joseph qui s'en viennent à Bethléem. Mais vu que Marie est enceinte, le bain des petits pipi-stops à faire, parce que, tu sais, c'est pas évident, tu comprends, pour une madame enceinte de partir finalement de Nazareth puis de descendre jusqu'à Bethléem enceinte, là, tu sais. Puis elle s'en va, puis là, elle va accoucher, mais il n'y a plus d'hôtel, tout est pris. Puis en passant, à l'époque, le tourisme, c'était pas trop fort. Tu sais, à Bethléem, c'est comme, je sais pas, moi, aller passer tes vacances à... Pas encore que quelqu'un reste là, mais... À quelque part où est-ce que tu vas pas passer tes vacances, supposons, tu comprends? Fait que c'est pas prévu. Donc, il arrive, il n'y a plus de place, mais bon, Dieu pourvoit pour son fils qui va naître de cette jeune vierge et de ce monsieur... Une grotte. Une petite grotte, quand même, on a trouvé, quand on était avec l'heure de la Bonne Nouvelle en Israël, on a trouvé une grotte similaire à côté de Bethléem, avec un champ. Vraiment, c'était vraiment le scénario, là, tu sais. Une grotte. notre Dieu qui aurait pu finalement naître dans un palais royal, qui est de la lignée de David, roi d'Israël, va naître dans une grotte. Mais est-ce que je réalise de quel genre d'amour Dieu m'a aimé? Mais si vous voulez continuer, si on veut continuer à connaître cet amour-là de plus en plus, pour avoir le fruit de la reconnaissance. Romains chapitre 12, Paul dit maintenant, par les compassions de Dieu, il a passé les 11 premiers chapitres à nous expliquer pourquoi et comment Dieu nous a aimés. Et normalement, il s'attend qu'on comprenne à quel point ce n'était pas normal qu'il nous aime. Rien en nous appelle cet amour. Il faut qu'il nous aime librement, de son propre chef. Lui-même décide de nous aimer. Il n'attend pas que quelque chose l'allume. Mais pour grandir encore dans cet amour, il faut devoir voir par sa grâce de plus en plus à quel point on est condamnable, même quand ça va vraiment bien. Et donc, de ne pas être surpris des diverses épreuves qu'on va avoir, de ne pas être surpris que ce message-là, s'il grandit en nous et que vous le partagez, va être un scandale pour le monde. Et l'apôtre Paul a peut-être été un des démonstrateurs les plus impressionnants pour voir et comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Parce que Dieu, pour pouvoir appuyer le témoignage qu'il avait d'abord donné aux 12 moins 1, Matthias est venu remplacer Judas, c'était de l'annoncer, il dit. Maintenant, il dit en allant, puis vraiment en allant fortement, tiens, donc, c'est quasiment, ça va s'imposer sur vous d'aller par le monde entier. Puis il parle à des Juifs, qui sont des paysans en passant. Ce n'est pas des gens qui sont de la haute, puis qui ont de l'argent, puis qui ont l'habitude de voyager dans le monde. C'est des gens qui restaient dans une campagne. Au mieux, quand ils sortaient de leur village, ils allaient à Jérusalem. C'est le grand voyage ça, pour les pèlerinages, puis les fêtes, ainsi de suite. Et là, il leur dit à ces paysans qui ont marché avec lui, qui ont fait quelques voyages avec lui, mais seulement en Israël. C'est pas... Écoute, le Seigneur n'a pas été faire un tour à Rome, il n'a pas été faire un tour à Athènes, tu sais, en disant, les gars, je vous paye le voyage, nous on s'en va. Non, c'est, on marche ces places-là. Là, il dit, maintenant, vous allez aller à la grandeur du globe. Et vous allez annoncer une bonne nouvelle. C'est ta pizza, ça, qui s'en vient? Alors, finalement... Ils les bouleversent, mais ils vont tellement être reconnaissants, puis pas juste un peu, mais pour toujours, parce qu'ils vont continuer à être ce qu'ils sont. Il faut faire attention à tous les mythes qu'on a amenés avec nous dans la vie chrétienne. Oh, vous venez à Jésus, vous allez être tellement changé. Certains attendent encore le changement. Pas vrai? Ils se sont dit, mais ça me semble que je suis supposé être une autre personne. Ça va être final à la résurrection. Pour l'instant, il va y avoir une certaine amélioration, il va y avoir une certaine atténuation de notre condition, mais ça va dépendre d'une seule chose, si tu veux qu'il y ait des vrais progrès. Il faut que dans un premier temps, tu entends toujours la première partie de la bonne nouvelle, regarde le désastre que tu es. Deuxièmement, voici pourquoi je détruis derrière quoi tu te caches quand tu te penses bon. Troisièmement, entends que je te pardonne. Quatrièmement, on marche ensemble. Hey, Seigneur, à qui tu veux que j'aille? C'est toujours le même processus. Fait que quand vous vous demandez que vos vies, ça débloque plus, ça avance plus, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on pogne un plafond. Et puis, on va, je ne sais pas quoi lire dans ma Bible, tu sais, puis là, c'est toujours la même chose à l'Église. Ben, en réalité, c'est que vous êtes derrière un mur de justice que vous vous êtes fabriqué. Et là, vous ne laissez pas personne vous écœurer. Et même, à la limite, vous espérez que les gens reconnaissent à quel point ils sont privilégiés de vous avoir. C'est le même qu'on est, c'est aussi critique que ça, parce que la preuve, si on ne vous envoie pas des louanges en temps et lieu, vous boudez, et certains vont même, des fois, faire des crises. Alors, l'apôtre Paul, qui est la solution, je ne dirais pas la solution finale de Dieu, là, mais c'est comme si les apôtres, ils les envoient, mais les apôtres, c'est quand même du monde pas si mal. L'apôtre Pierre, il a l'air un tempérament un peu particulier. J'aurais pas aimé l'avoir comme patron de chaloupe, là, tu sais, parce qu'il me semble qu'il avait l'air rough un peu, tu sais. Les deux apôtres aussi que Jésus leur donne le surnom « fils du tonnerre ». Tu sais, un tonnerre, quand ça pète, là, Ça claque pas mal. Donc, le doux apôtre Jean, c'était un des deux que Jésus a appelé fils du tonnerre. Fait que, tu sais, je dis, ça ne doit pas être reposant, les gars, non plus. Matthieu, qui travaillait pour les Romains. Jude, qui travaillait, lui, dans le parti des c'était le PQ de l'époque, là, tu sais. Il était, tu comprends, tu mets finalement un fédéraliste puis un séparatiste ensemble d'un type de Jésus. Tu imagines-tu quand ils envoient deux par deux? Donc, ces hommes-là apprennent une chose. Tout ce qui vous distinguait avant, tout ce qui vous rendait supérieur aux autres avant, je vais le détruire. Je vais complètement le détruire. Et quand tout sera détruit, je bâtirai en vous mon témoignage. Je bâtirai mon Église. Et c'est ce processus dans lequel on est. Donc, les apôtres ont commencé ce processus, et puis c'est pour ça qu'ils n'ont jamais peur d'exposer leurs fautes pour parler de la bonté de Dieu. Ils parlent rarement, quasiment jamais, de comment ils ont été bons. C'est pour ça que Dieu a répondu à eux. Même Pierre, quand il fait un miracle, entre autres, et les gens sont extrêmement impressionnés, ils vont tout de suite se demander quel type de piété il a pour que Dieu approuve tant cet homme. Et là, il va leur dire, « Non, ça n'a rien à voir avec ma piété personnelle. Ça n'a rien à voir avec une puissance personnelle. C'est qu'on a confiance dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On a foi en son nom. » Donc, il est en train de dire, « Les gars, maintenant, là, c'est fini de fouiller dans les personnes où ça se passe. Regardez plutôt vers qui il pointe pour réaliser que c'est toujours par Jésus-Christ seul que ces choses-là vont arriver. » Mais tout le processus de connaître le Seigneur Jésus-Christ passe d'abord par une démolition systématique de ce qu'on est. Si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix. Fait que, en temps et lieu, on dirait que le Seigneur va susciter des moyens qui vont déstabiliser. Les apôtres ont fait un certain travail. De leurs disciples sort un gars qui s'appelle Étienne, comme on se rappelle qu'on a vu. Étienne se fait tuer. Sa carrière a été courte. Il donne un message, et le message est tellement clair, et il atteint tellement le but, que si le Saint-Esprit n'est pas en train de vraiment vaincre ces hommes vont manifester leur colère contre Dieu en détruisant et en tuant le témoin. Et Étienne s'est fait massacrer par ce groupe d'hommes pieux au nom de la justice, celle même de Dieu. Un tel homme ne doit pas vivre. Et ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Et lui, pendant qu'il se fait lapider, il est encore capable, dans sa reconnaissance absolument incroyable, de dire, écoute, Seigneur, je te demande une faveur pendant qu'ils sont en train de me tuer, ne leur tiens pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent même pas ce qu'ils font. Et le Seigneur a écouté Étienne, et il a suscité, au milieu de ses tueurs, le fameux Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui s'en allait continuer au nom de la justice divine, au nom de l'orthodoxie, au nom qu'on doit mettre les choses en règle ici, il s'en allait à Damas pour continuer à essayer d'enrayer cette secte. Et là, le Seigneur lui-même apparaît. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et cet homme-là, sa vie va être complètement bouleversée. Il est littéralement détruit. Détruit pour être rebâti. Détruit pour qu'il puisse maintenant découvrir un nouveau maître. Parce qu'il n'avait jamais réalisé jusqu'à ce jour que son maître à penser, son père qu'il croyait être Dieu, c'était pas Dieu, c'était le diable. C'était le diable. Le meurtrier du début. Parce que sa violence manifestait qui il servait sans même s'en rendre compte. L'homme est créé à l'image de Dieu ou séparé de Dieu à l'image du prince de ce monde. Un des deux. Et là, on a vu dans Acte 13, parce qu'on était rendu là, à la fin du chapitre, Acte 13, un homme gracieux, un homme qui a vraiment un don de miséricorde, s'appelle Barnabas, se rappelle, parce que c'est lui qui l'avait introduit, ce Saul de Tarse, parce que personne ne voulait le rencontrer. Les apôtres ne voulaient pas le voir. Personne ne voulait le voir. Écoute, il a détruit des familles. Il a fait mettre du monde en prison. Du monde sont morts à cause de lui. Des chrétiens sont morts à cause de lui. C'est un violent. C'est une nouvelle stratégie qu'il y a pour infiltrer le groupe maintenant, pour essayer de détruire tout le monde. Qui va y faire confiance? Qui va donner sa chance? Personne ne veut. Mais le Seigneur a toujours des gens en qui sa grâce agit puissamment. Des gens qui vont espérer plus que les autres que Dieu peut faire quelque chose. Ils ne sont pas contre les règles. Mais ils prennent des risques au nom de la grâce de Dieu. Barnabas, c'est vraiment un gars incroyable. Savez-vous ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas son vrai nom, ce Barnabas. C'est le surnom qu'on lui a donné. Je pense à Joseph, son nom. Mais savez-vous ce que veut dire Barnabas? OK, on traduit ça par fils d'exhortation, mais si vous faites le mot, c'est araméen, mais si vous le mettez même au son hébreu, dans le sens où, plutôt que bar, ça veut dire fils, donc ben, pour fils, bar en araméen, Nabi. Le docteur Côté n'est pas là? Il est où le docteur Côté? Je ne m'en rappelle plus. Nabi, prophète, ou c'est un bête, mais sans le point qu'un V. Donc, Nabi. OK, donc c'est un prophète, fils des prophètes, fils de la consolation. Un vrai prophète, surtout de la Nouvelle Alliance, il console, il exhorte, il nous rattache affectivement sans arrêt au Seigneur en disant, « T'as-tu oublié? L'as-tu perdu de vue? » Et Barnabas, les apôtres reconnaissent qu'il y a tellement cette communion dans la grâce de Dieu qu'il en est quasiment naïf. Il va aller plus loin. Et c'est lui qui va introduire Saul de Tarse aux apôtres. Et Paul, Saul encore à l'époque, il s'appelait toujours par son nom hébreu, il est tellement enthousiaste que partout où il est, il met ça bien clair à qui veut l'entendre et même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, qui est ce Jésus? Ce Jésus est réellement le oint de Dieu, l'unique Fils de Dieu, le seul salut, la promesse d'Israël, la fidélité de Dieu. Il mettait ça tellement clair que non seulement Damas, ils ont été obligés de le faire sortir la nuit par la corbeille, là, parce que tout le monde l'a tué, mais quand il arrive à Jérusalem, après ça, il est avec les apôtres contents. Il dit, ben, j'étais avec les gars qui l'ont connu. Puis là, il est plus zélé que les apôtres. Les apôtres sont obligés de dire, écoute, Paul, tu restes où, toi, déjà? Tarse, on te paye le voyage. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis, ils l'ont emmené à Césarée, puis là, ils ont payé le bateau en disant, retourne chez vous. Et le verset d'après est marqué, « Et toute l'Église de la Judée était en paix. » C'est quand même beau. Mais est-ce que vous réalisez l'intensité, la reconnaissance de cet homme? Est-ce qu'il a changé? Oui. C'est-tu le même gars? Oui. Autant qu'il était zélé avant pour son père, le diable, dans sa religion, dans sa moralité, dans son accomplissement de lui-même, dans son développement. Je veux dire, c'est un gars qui avait une carrière, il réussissait, ce gars, c'est un génie, tu comprends? Eh bien là, il va être aussi zélé pour Dieu. Mais il n'a plus le même père. Il est réconcilié à Dieu. Et là, il ne fait pas mourir les gens au nom de la justice, mais au nom de la justice accomplie par Jésus-Christ, il est prêt à mourir, à donner sa vie. Il ne prend pas la vie des autres. La justice des hommes, on va prendre leur vie et on va les tuer s'ils ne veulent pas se soumettre. La justice de Dieu, il envoie une armée qui dit « Allez donner vos vies pour qu'ils vivent. » C'est un autre monde. C'est un autre royaume. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a une église, comme on a vu, qui commence à devenir mixte. Elle commence à être beaucoup plus en santé. Parce que le message de l'Évangile est universel, de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Alors là, finalement, il y a un mélange de païens et de juifs. Mais là, il y a tellement une excitation, il devait peut-être avoir du désordre là-dedans, je ne sais pas trop. Les gars ne savent pas trop comment gérer tout ça à Antioche. Ils ne savent pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. La bonté de Dieu est rendue manifeste, les païens se convertissent. Mais là, les païens et les juifs se demandent en disant, bon, on vit ça comment là? Il faut-tu circoncire, pas circoncire? On mange-tu du cochon, pas de cochon? On fait-tu des ablutions? Non, on fait quoi? Parce que c'est le concept, si on comprend pourquoi les Juifs chrétiens, puis surtout une branche radicale, pourquoi ils insistaient tant que finalement les païens soient circoncis, puis qu'ils puissent manger la nourriture adéquate selon le code de Moïse, c'est que leur compréhension, à eux, en tout cas, qui semblait être celle de tout le monde aussi, les païens, maintenant, sont incorporés à l'Israël de Dieu. Maintenant, si vous êtes incorporés au peuple de Dieu, à l'Israël de Dieu, Ce que Paul reprend, entre autres, dans son illustration de Romains chapitre 10, je pense. Eh bien là, il dit, si vous êtes maintenant des Juifs spirituellement, parce que par la foi vous êtes, bien, il faut mettre vos vies en règle selon ce que Dieu nous a montré comment on doit vivre. Vous ne pouvez plus manger de jambon. Non? Non. Vous pouvez plus pas être circoncis. Il faut être circoncis. Peux-tu réfléchir à ça avant? Non, il devait y penser. Écoute, surtout avec les moyens de l'époque, là. Pas sûr que c'est plaisant, tu vois. Hein? Vous vous rappelez, il y a même un village qui s'est fait massacrer dans Genèse lorsque la sœur d'Ina, la sœur des 12 patriarches d'Israël, s'était faite violer par, finalement, un prince de l'époque. Puis, finalement, pendant qu'il a violé, il est tombé en amour avec elle, fait qu'il a été demandé à son père s'il ne pouvait pas en marier. Autre coutume, autre mœurs. Et quand ses frères ont appris ça, Siméon, entre autres, et Lévi, si je ne me trompe pas, ont tellement été en colère que leur sœur, leur petite sœur, s'est faite violer par ce gars-là. Et puis là, ben oui, c'est ça, on va se mettre ensemble. Ils ont eu un plan absolument incroyable. Ils ont été voir le village, les responsables, ils disent, bon, on vient. Le père n'était pas au courant, Jacob n'était pas au courant, et il ne sait pas ce qui se passait avec lui, mais il n'était pas au courant. Bref, ces deux frères-là, ils ont dit, écoutez, vous savez, nous autres, on voudrait bien, ce serait super, tu sais, puis, mais, vous savez, chez nous, il faut que tous les hommes soient circoncis. Donc, si vous êtes prêts à passer la circoncision, écoute, on pourrait peut-être envisager la chose. Ah oui? Fait que, hey, c'était un prince, il disait à tout son village, toute la gang, les gars, tout le monde au couteau, venez-vous-en. Fait que, il dit que pendant la douleur, tu sais, deux jours, trois jours après, quand juste faire des pépises, ça doit faire mal, pas mal, eh bien, finalement, il dit, pendant qu'ils sont tous très faibles, qu'ils ont tous mal, qu'ils marchent un peu en cow-boy, tu en vas, eh bien là, finalement, ils descendent sur la ville puis ils massacrent tout le monde. Fait que là, les nouveaux chrétiens, ils connaissent peut-être pas cette histoire-là, mais ils veulent pas que... Ils sont peut-être... Donc, Barnabas est envoyé pour voir ce qui se passe là-bas. On envoie un homme gracieux, un homme qui voit plus loin que les règles. Un homme qui voit un peu plus loin que... on s'est dit qu'on faisait ça, là. OK, c'est bien, oui, il y a des bonnes règles, mais est-ce que nos règles sont vraiment toujours selon ce que Dieu veut? Parce que des fois, ça se renouvelle, des règles. T'sais, on est toujours dedans, on atteint toujours le but. Ça fait qu'il dit, okay, on va envoyer notre fils de prophète ici. Et puis lui va nous dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que pour les Juifs, entre Juifs, t'es Juif. Pas compliqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les païens qui sont en train de se convertir? Ils n'ont pas encore développé leur théologie là-dessus. Ils ne comprennent pas trop ce qu'on va faire. Ils ne veulent pas non plus déplaire au Seigneur. Alors, finalement, Barnabas est envoyé. Quand il arrive là-bas, il voit. Lui, il a des yeux pour voir, puis il a des oreilles pour entendre, puis un cœur pour croire, ce gars-là. Il voit la grâce de Dieu. Il voit comment Dieu est en train d'opérer au milieu de ces gens-là. Alors, il renvoie finalement un message à Jérusalem en disant, écoutez, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Et il dit aux gens, continuez à rester attachés à la grâce de Dieu. Ce qui est en passant dans une connaissance extrêmement imparfaite. Tu sais, il y a des gens qui flippent à tous les fois. « C'est-tu réglé, ça, cette position-là? » Non, on est en marche, là, en ce moment. « Il ne peut pas être en marche, c'est blanc ou noir, blanc ou noir, blanc! » Tu dis, « Femme-là, on marche, là, on va y arriver. Quand on va avoir la solution finale, on va t'en donner. » Pour l'instant, Jésus est là encore, il n'a pas sacré son camp. Ben reste avec nous autres, comprenez? C'est fatigant, ça, n'est pas quand même, non? Ça fait que là, il y a la grâce de Dieu qui t'opère. Fait que Barnabas, il dit, « Attends! » Je me rappelle d'un gars, c'est un rabbin. Il a vraiment été saisi par la grâce de Dieu, ce gars-là, c'est incroyable. Il a passé, lui, de vouloir tuer les chrétiens à vouloir donner sa vie pour eux autres. Il a tellement compris, puis il a tellement de compréhension des Écritures, parce que c'était quelqu'un, en d'autres mots, c'est un docteur en théologie. Le gars, il a été élevé dans les meilleures écoles de théologie de son époque. Et puis, il dit, « M'allez le chercher. » Il a été élevé sous Gamaliel, le petit-fils de Hillel. Je dis, ça faisait partie des grosses écoles de l'époque. On va aller chercher ce gars-là. Il va sûrement nous aider à développer tout ça. C'était le docteur Vellman de l'époque. Alors, il va chercher ce gars-là. Saul et Barnabas, avec les autres, servent le Seigneur dans cette église, dans leur don qu'ils ont. C'était sûrement dans l'enseignement obligé. Alors, finalement, ils vont, pendant peut-être un an de temps, vraiment s'y mettre. Et à l'époque, vu que c'était beaucoup plus tranquille comme vie, on avait le temps de s'arrêter et d'aller à l'église régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est quasiment tous les jours. Ça va? Parce que, bon, il n'y avait pas de téléroman le soir, il n'y avait pas The Voice, il n'y avait pas, je ne sais pas quoi, là. Bref, il n'y avait pas Netflix non plus. Fait qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de téléphone intelligent ou pas intelligent. Il n'y avait rien. Alors, le sport national, c'est qu'est-ce qui se passe à soi? On ne sait pas, on trouve ce qu'il y a de la lumière. C'était comme ça. C'est comme ça dans bien des parties du monde encore. Hein? Tu sors de chez vous le soir, puis avec ta petite lumière, puis tu cherches où il y a plus de lumière, puis où ça parle. Y a-tu quelque chose qui se passe à quelque part dans le village? Alors, les gens étaient beaucoup moins distraits. Nous, là, on est noyés de distractions. Pour faire une réunion, il faut que tu fasses un show de boucan, des ballons, puis tout. Tant, venez ce soir! Hey! Et puis là, tu sais, t'as un prix de consolation, puis t'essaies d'avoir tout le monde. Hey, mets ça sur... Tu peux pas les enregistrer à cette heure, tes affaires de même. Enregistre ton show, viens. Ah, je sais pas, parce que... Bridget, je sais pas ce qui va lui arriver ce soir. Non, il y a des gens qui vivent des téléromans, chum. C'est comme s'ils suivent l'Évangile le lundi matin, ils rentrent à la job, puis oh, moi, j'ai pleuré toute la soirée hier. Genre, tu comprends? Oh, ouais, moi, ça m'a bouleversé. Ben, le feu est pogné, crème en Alberta, ils s'en sortent comme dans l'an 40. Mais Bridget était malade hier. Je dis un nom de main, j'espère que personne ne s'appelle Bridget. Bref, tout ça pour vous dire que, après cette année, ce groupe d'hommes-là, qui est nommé ici, le Saint-Esprit leur parle. Puis il ne parle pas juste à eux, il en parle à l'ensemble de l'Église, mais spécialement à ceux qui dirigent. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les autres sont là, wow, tu sais. Fait qu'ils vont jeûner, prier, vraiment soumis devant Dieu en disant, « Seigneur, comment on peut être sûr que c'est toi qui nous parle? » Et puis après avoir discerné que ça semble vraiment être la volonté de Dieu, alors, bon, ben OK, Barnabas et Saul, on va prier pour vous. Et on vous libère, partez où le Seigneur va vous diriger. Et c'est comme ça que le premier voyage de l'apôtre Paul avec Barnabas commence. Est-ce qu'on a la... Non, ça c'était moi ça? OK, elle est là. Donc, elle est là? OK, parfait. Donc, moi je suis là, vous autres êtes là. Comme vous pouvez voir, c'est en bleu son premier voyage. Il va partir donc d'Antioche. T'es-tu capable de pointer Antioche? Avec ta petite flèche, là, descend. Antioche. Pas, non, ça, c'est Pisidie. Antioche de Pisidie. L'autre Antioche, en Syrie. That's it. Oup, monte. Bing! On l'a. OK, donc Antioche, puis là, c'est assez populaire. Vous avez à côté, regardez, Aleph. C'est là que c'est en train de bardasser les chrétiens. Donc, les églises là-bas, c'est pas des nouvelles églises comme au Québec, comme nous autres, là, tu sais. Oh, on a au moins 50 ans. Les autres, ça fait 2000 ans qu'ils sont là. Et puis c'est triste des fois de tellement être impressionné des découvertes qu'on fait dans certaines doctrines que l'Église a commencé quand nous autres on a compris quelque chose. Vous avez remarqué ça? Hein? On dirait que l'histoire de l'Église a commencé à notre conversion. Avant ça, on ne sait pas ce que les gens croyaient. Tu as tout perdu. Anyway. Ça fait que là, d'Antioche, ils vont s'embarquer puis ils vont aller vers l'île de Chypre. Pogne ton bateau, Yves. Sur la petite ligne bleue, on s'en va à Chypre. Ah, t'as le pointeur, là? Ah, great! Voilà. Ça, c'est de la technologie. Donc, à Chypre, là, finalement, ils vont avoir un contact absolument incroyable, le proconsul, Serge Paul, Sergius Paulus. Et lui, il est vraiment intéressé de comprendre le message, alors il lui annonce l'Évangile. Mais pendant ce temps-là, il y avait un faux prophète juif qui s'appelait Fils de Jésus. C'est vraiment pas le nom pour avoir, mais Bar Jésus. Et puis, il fait de la magie. C'est un crook, là, tu sais. Et il veut absolument pas que l'homme puisse entendre ce message. Et là, Paul s'énerve un petit peu. Et là, il le regarde droit dans les yeux. Puis il dit, tu veux amener les gens dans les ténèbres? Tu vas être dans les ténèbres. Et puis là, le gars devient aveugle pendant une couple de jours. Complètement. Fait que là, ça impressionne quand même pas mal Serge Paul en disant, ça a l'air fort. Alors, il se convertit, et je suis sûr, parce que quand il va partir de là, on prend le bateau, et puis on s'en va finalement, le port est en Pamphylie, mais vous remarquez finalement dans le texte, ils n'arrêtent pas en Pamphylie. Ils vont finalement, parce qu'en Pamphylie, ils débarquent au port, et là, qui s'en va? Jean-Marc. Ouais, là, on est en Turquie. C'est ça, la Turquie actuelle d'aujourd'hui. Là, il débarque là. Jean-Marc, selon les meilleurs commentateurs, Jean-Marc s'en va pas chez eux parce qu'il s'ennuie de sa mère. Jean-Marc semble partir parce qu'il n'est pas encore rendu capable de vraiment absorber à ce que les païens restent païens tout en étant vraiment sauvés entièrement, faisant partie du peuple de Dieu pour vrai, puis qui n'ont pas besoin de manger la même nourriture, puis qui n'ont pas besoin d'être circoncis. Jean-Marc n'est pas encore rendu là. En passant, il ne faut pas le blâmer. Même l'Église de Jérusalem n'est pas encore vraiment rendue là. On va le voir au chapitre 15. Il y a un grand débat pour savoir comment on fait, là, juif et grec. Donc, Jean-Marc décide de partir. Et là, Paul et Barnabas vont monter jusqu'à Antioche, mais de Pisidie. Et là, c'est là que finalement, on a vu qu'il y a la première prédication que Luc a fait écrire. Et quand vous remarquez le message, comme on le veut ensemble, dans ce message-là, Paul rappelle aux Juifs, parce qu'il a trouvé d'abord la synagogue, et là, il va leur dire, rappelez-vous, si je résume vraiment le message, la promesse de Dieu, et cette promesse, il nous le fait à nous, mais parce qu'il nous avait choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Dieu s'est fait un peuple. Ce n'est pas un jour des Juifs se sont dit, quand il y a un Dieu là, qui n'a pas l'air d'avoir de peuple, là, quand nous autres, on va l'adopter. On va le recevoir chez nous, puis on va y faire des temples. Puis, tu sais, tous les autres peuples ont des dieux. Puis, regarde ce Dieu-là, Elohim, il est tout seul. Il cogne à la porte. Il fait frais dehors. Nous autres, on va croire en lui. Nous autres, on va dire, nous autres, on va marcher avec toi. Fait que Paul, là, c'est juste le rappeler, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt que le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Là, il leur rappelle cette doctrine qui bouleverse tout païen, toute personne non régénérée, toute personne qui a l'impression de posséder sa vie. Dieu choisit. Et il leur rappelle que quand le peuple a choisi, c'était, par exemple, comme roi, un gars comme Saül, Dieu l'a rejeté, ce n'était pas un homme qui marchait dans le cœur de Dieu. C'est un homme qui accomplit ses projets, mais il n'est pas intéressé, il n'est pas concerné à avoir une vie qui sert Dieu, mais c'est quelqu'un qui se sert de ce que Dieu peut être pour lui pour qu'il puisse réaliser finalement sa vocation, son appel de roi, ainsi de suite. Et là, il dit, j'ai trouvé David. David, totalement différent. Et après ce message, il leur fait voir en disant, écoutez, je finis en disant, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui a été dit, là. Parce que le salut de Dieu, la promesse qui va se réaliser, va dépasser tout entendement. Et là, ça impressionne tellement les gens, on a vu ça ensemble, quand ils vont sortir, le message continue quasiment. Tu sais, les gens sont tout autour de Saul et Barnabas, puis hey, ils veulent plus de questions, puis peut-être pendant toute la semaine, ils les ont finalement, pour dire, écoutez, on est là au prochain Shabbat. Parfait. Prochain Shabbat, il dit presque toute la ville est là. Tous ceux qui n'étaient même pas intéressés avant, parce que là, on a les craignants Dieu sont... ils veulent bien, c'est un peu comme les Corneilles. Corneille veut bien, mais passer à la circoncision puis devenir juif, il n'est pas là encore. Mais il voit que dans cette religion, il voit que dans cette manière d'aborder Dieu, il y a quelque chose de plus intelligent que toutes les religions païennes qui font aucun sens. Alors, non seulement ces gens païens sont là avec les juifs, mais en plus, tous ceux qui n'étaient pas nécessairement intéressés se disent, hey, il s'est passé quelque chose à la synagogue des juifs. Il y a deux messagers qui étaient là, qui ont parlé de Dieu comme on n'a jamais entendu parler. Écoute, tout le monde s'est ramassé là. Les Juifs qui voient tout le monde arriver sont jaloux, peut-être parce que les autres n'ont pas eu le même impact que lui. Plutôt que de se réjouir de l'œuvre que Dieu est en train de faire, on peut des fois vouloir détruire l'œuvre que Dieu est en train de faire par un autre, parce qu'il ne l'a pas faite par nous. Ça n'arrive jamais chez les chrétiens, je le sais. Mais encore que l'idée nous pogne. Et puis là, finalement... ça va tellement mal aller qu'ils vont l'insulter, ils vont tout faire pour qu'il ne puisse pas parler. Là, je insiste sur son parler. Il parle. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il va leur dire, OK. Paul leur dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Là, les païens ici, c'est pas encore, c'est plus, c'est païen, c'est pas craignant Dieu, là. Je veux qu'on voit, là, vraiment le monsieur tout le monde qui avait rien à voir avec cette religion-là. Les païens sont contents. C'est quoi, Dieu, il s'intéresse même à nous autres, des gens qui... Les païens se réjouissèrent en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il n'est pas dit ici, et tous ceux qui crurent se destinèrent à la vie éternelle. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Écoute, l'enthousiasme des gens est le feu de l'évangélisation. C'est pour ça que je vous dis, si vous perdez ce zèle, si vous perdez le zèle de la bonne nouvelle, le zèle que ça produit, l'enthousiasme que ça produit, il n'y a pas d'autre solution. Et que le Seigneur nous le montre à nous personnellement, régulièrement, toujours en disant, regarde, puis là, parce que des fois, on pense qu'on n'est pas pire. Pas pire. Hey, wow, je suis quand même fier de moi, puis tu sais. Puis je pense que le Seigneur doit être content aussi. Le Seigneur dit, écoute, tu veux aller plus loin? Je suis prêt. Mais là, je suis prêt. Pensez-y avant de le dire, je suis prêt. Il y en a un qui nous l'a dit aux élections, il n'était pas prêt pendant tout. Donc, je suis prêt. Nous autres, il ne faut pas le dire trop vite. Il faut comprendre, je suis prêt. Oui, Seigneur, comment? Je vais te montrer à quel point ma colère était justifiée à ton égard. Encore? Il me semble que... Non, il me semble pas. Et là, vous allez pas nécessairement faire quelque chose de mal. Vous allez voir quelque chose de votre personne. Vous allez descendre dans les catacombes de votre âme. Et là, vous allez réaliser, « Pouah, mes motifs sont pourris. Il n'y a rien de bon dans ce que je fais. » C'est un dit, en effet. « Oui, mais c'est vrai, mais comment tu peux accepter quoi que ce soit? » À cause de Christ, je n'arrête pas de te le répéter, puis on va te le répéter pour un petit bout de temps. À cause de Christ. « Oui, mais c'est vrai, regarde mes œuvres, là. » Damien parlait de la motivation qu'on peut avoir quand on aide les gens. Quand on aide les gens, là, puis ça a bien marché, puis les gens sont vraiment contents. Puis ils disent, oh, merci. Il y a quasiment une petite voix en dedans de vous qui dit, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un ne vous remercie pas en disant, les cœurs. Alors là, finalement, si tu dis, attends, c'est qui cette petite voix? Ça doit être le Saint-Esprit. Pas sûr. Je suis vraiment pas certain. J'ai l'impression que c'est ma bonne vieille chair qui cherche encore à survivre. Et puis, finalement, le Seigneur dit... Et puis là, il te montre, puis après ça, il dit, « Mais oublie pas, plus on est dans la lumière, plus c'est évident ce que tu es, mais dans cette lumière, dans cette communion, le sang de Christ nous purifie de tout péché. » Là, tu dis, « Mais moi, ça ne me tente plus d'agir, c'est pourri ce que je fais. » Le Seigneur dit, « Non, tu vas agir dans l'obéissance de la foi. » Ça veut dire que tu sais que tu es pourri, puis le Seigneur dit, tu vas y retourner, tu vas continuer. OK. Et moi, non seulement en t'appelant, je te justifie par la justice de Christ, mais je justifie ce que tu fais. C'est ça qui est béni dans nos œuvres. Le chrétien n'a pas à regarder si son œuvre est meilleure que celle du non-croyant. Votre œuvre, ce que vous faites dans la foi, dans la confiance en Christ, dans son œuvre accomplie, votre obéissance de foi est la même base sur laquelle Dieu justifie votre œuvre qui vous a justifié vous. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on devient un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Puis si quelqu'un du monde dit, vous prenez pour d'autres, hein? Oui. Puis c'est pas bien. Mais c'est pour ça qu'on croit en Christ. Parce qu'on croit que quelqu'un nous pardonne, qu'il nous pardonne même nos bonnes œuvres. Il nous pardonne, puis en plus qu'il nous pardonne, il ne fait pas mettre ça juste à zéro. Il est justifié. Il dit, non, ça, c'est mon fils qui a cru en moi là, qui fait ces choses-là. Tu sais, on a parlé de théâtre, on revenait d'une grande discussion dans la voiture avec Pasteur Vellman puis un frère. Et puis, il ne comprenait pas. Il dit, ah, non, finalement, c'est de la merde ce que je fais. Il disait, bien, disons, c'est un peu gras de dire comme ça, là, mais disons que oui. Parce que regarde, ce que tu fais, là, si tu n'as pas ce que tu veux au bout, là, tu vas être prêt à détruire après. Fait que certainement, c'est pourri ce que tu fais. Non, je ne ferai plus rien. Non, non, faut que tu le fasses encore. Mais faut que tu le fasses en réalisant le pourri qui est en train de le faire est appelé de Dieu. C'est pour ça que Christ est mort. Là, tu es mis au compte de ceux qui, comme Abraham, ont été appelés. Est-ce que vous réalisez qu'Abraham a inauguré, pour la première fois dans la Bible, le ministère prophétique? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Abraham est le premier qui inaugure le ministère prophétique. La première fois que Dieu appelle un homme un prophète, son prophète. Et dans quelles circonstances? Lorsqu'il avait menti à Abimélec. Tu dis, Seigneur, il me semble que ce n'est pas un bon timing pour présenter le ministère prophétique. Non, vous allez comprendre que quand j'appelle un homme, je le justifie. Ceux que Dieu a appelés, il les justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les glorifie. Et lorsque Paul est en train d'annoncer ce message-là partout, les Juifs qui comptaient tellement sur ce qu'il faisait, et les Juifs, n'oubliez pas, pensez à des gens qui sont ce qu'il y a de meilleur dans nos sociétés. C'est pas des méchants, c'est des meilleurs. Alors, eux autres sont complètement scandalisants. Tu me dis que j'ai tout fait ça pour rien? Non, non, tu devais normalement le faire en vérité et par amour, mais tu ne l'as jamais fait en vérité et par amour. La preuve, tu es en colère si Dieu ne reconnaît pas le mérite. Tu es en colère. D'où vient cette colère? Et là, finalement, ça va tellement mal que... Bon, les païens se convertissent et puis la parole va continuer à aller de l'avant. Les disciples, eux autres, malgré que les apôtres sont en train de vraiment, ils sont obligés de partir, puis ils secouent la poussière, puis de leurs pieds, puis de les épaules en disant, écoutez, gars, et là, ça vous montre une chose. Il faut arrêter de penser que ce n'est pas grave de refuser l'Évangile. Il faut arrêter de penser que quand un village, une ville, un quartier veut rien savoir, qu'un pays se moque et veut rien savoir de l'Évangile, dites-vous une chose, quand les apôtres ici ont secoué la poussière face à cette ville, les disciples vont être sauvés. Cette ville est en attente d'un jugement maintenant. Il faut remettre l'enseignement biblique de l'avant ici. Dieu juge encore. Il juge. La colère de Dieu est sur le monde. La colère de Dieu demeure sur toute personne qui n'a pas encore cru dans ce Fils, ce unique salut. La colère de Dieu est sur ce monde. Fait qu'il faut arrêter de parler juste d'un bon Dieu qui est bonasse et puis qui aime tout le monde tellement qu'il n'a pas le cœur de condamner personne. S'il a condamné son propre fils quand son fils a pris nos fautes, vous pensez finalement qu'il va dire « Ah, oh, c'est pas grave à quelqu'un qui se moque de Dieu aujourd'hui, qui est au-dessus de ses affaires? » Je ne pense pas. L'Épître aux Hébreux nous rappelle en disant « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » La colère de Dieu, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que nous, on doit aller prêcher l'Évangile, puisque les élus vont répondre? Eh bien, c'est le moyen que Dieu a choisi de sauver. Les gens vont être sauvés s'ils entendent le message. Regardez, pour bien garder en équilibre, on a d'abord la partie où les Juifs eux-mêmes, Paul dit, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, c'est pas Dieu, là, c'est votre jugement. Eh bien, nous, on se tourne vers les païens. Les païens, wow, tu sais, ils répondent. Après ça, pour pas qu'on reste dans un genre de fatalisme, qu'est-ce qui est dit? Chapitre 14, à Icône. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, comme leur tradition y font. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Leur manière d'annoncer le message compte. Notre formation, c'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, voici, en allant, là, voici mon ordre, en allant, puis allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que Ryan a rappelé finalement que la Bible parle, c'est un mouvement qui a intégré dans sa manière de vivre la mission. Parce que finalement, ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pas pour nous. Nous sommes bénéficiaires, mais pour que ça ait son plein effet, c'est pour que ça soit communiqué au prochain. C'est pas normal de pas témoigner de notre foi. Dites-moi, bon, non, j'ai pas la personnalité que tu as. Non, non, ceux qui me connaissent savent très bien quel genre de personnalité Dieu m'a donné. Elle est très pas bonne. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas violent. Je suis peureux, je suis lâche et je m'aime plus que je vous aime. Non, non, c'est vrai, c'est un problème sérieux. Quand les gens parlent de l'amour pour soi, je dis, mon pauvre toi, si tu savais comment j'en ai. C'est un problème. Parce que la timidité que j'ai vient de l'amour que j'ai pour moi. Je ne veux pas avoir l'air fou, moi, là. Je ne veux pas être rejeté. C'est ma femme qui a décidé quand est-ce qu'on sortirait ensemble. Parce que là, vous voyez bien que je niaisais. Je n'étais pas capable de dire, on va-tu ensemble? Tu sais, comme un gars normal? Non. Non, non. Moi, je suis là, et tout à coup, elle me dit non, je ne serais pas capable de soutenir ça. C'est même pas qu'elle ne veut pas sortir avec moi, c'est qu'elle me dit non. Tu comprends-tu? C'est niaiseux à ce point-là. Puis là, elle s'étonne en disant, je pense qu'il y a quelque chose entre nous deux, hein? Tu penses? On sort ensemble? Si tu veux. Ça fait quand quelqu'un me dit « Ah, oh, moi, j'aurais une personnalité comme toi pour pouvoir sortir le message, mon pauvre toi, tu sais pas dans quelle tête je vis. » C'est une terreur pour moi d'aller parler du monde. L'Évangile, je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement été convaincu que c'est le seul moyen d'en sortir qu'il n'y a rien qui mérite plus que d'entendre des fausses solutions, niaiseuses, sans arrêt, que de génération en génération, on réinvente tout le temps, mais c'est toujours au détriment de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme en bas de la liste. Ben, si tu n'as pas le choix, tu iras voir ça. Là, pis. Moi, là, ça me met complètement à l'envers. Et c'est encore pire quand je suis chez les chrétiens. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel paye-tu. Il n'y en a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. À moins que vous soyez assez niaiseux pour vous raconter à vous-même des niaiseries, puis des croire. Ça, c'est le comble de la stupidité totale. Alors là, soyez perdus. Vous avez vraiment travaillé fort là-dessus. Et lâchez pas. Restez la tête dans le sable. Ça marche. Par contre, si vous avez décidé en disant non, il faut que je la sorte ma tête du sable. Et ce qui est, puis là, il faut que je fasse ça à sa musique. Mais un coup, tu l'as, la solution. Un coup que le Seigneur t'a vaincu, tu vas te taire. Ah, Seigneur, mais c'est parce que ce n'est pas mon appel. Non? Ben, si ce n'est pas votre don et votre appel, supposons que vous êtes muet. Ça, moi, je suis bien chanceux que je suis muet. Pas parler, tu comprends? OK. Tu peux écrire. Ah, non, mais c'est parce que j'ai une paralysie partielle des mains. Puis je suis muet. Bon, OK. C'est mal à marcher, c'est vrai, là. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a aidé quelqu'un, par exemple, qui parle. M'a le soutenir financièrement. M'a prié pour lui. M'a m'associer avec lui. M'a embarqué dans son équipe. Soit par la prière, soit par des dons, soit par n'importe quoi. Tout ce que j'ai, m'a le mettre à contribution du royaume. Puis je vais m'associer à quelqu'un qui l'a plus que moi pour que ça sorte. Parce que le but, c'est pas faire de l'évangélisation. Le but, c'est que les gens l'entendent, le message. Tu sais, il y a des gens là, qui se déculpabilisent à faire un an d'évangélisation par semaine. J'ai fait mon heure, moi, là. Mon pauvre toi, arrête de faire un heure. Il faut que le message sorte en allant par le monde entier. Annoncez-leur la bonne nouvelle. L'œuvre est accomplie. Allons, ce n'est pas une chose à faire, c'est fait. Allez leur annoncer que tout est accompli. À quiconque veut, vienne. Et Paul va tellement démolir la justice fausse des hommes qu'il va se faire haïr d'une manière incroyable. Le gars, il est lapidé. On le frappe, on le met en prison. Ça finit toujours avec des émeutes. Comment ça se fait que nous, nos églises, aujourd'hui, ça ne finit pas avec une émeute ici dans la région? Parce qu'on a tellement adapté l'Évangile pour qu'il soit acceptable que ce n'est plus l'Évangile qu'on est en train d'annoncer. Ce n'est plus l'Évangile qu'on annonce. Mais si on annonce vraiment l'Évangile, ça va bouleverser. Mais c'est celui-là qu'il faut sortir. Donc, la semaine prochaine, on va conclure ce premier voyage, parce que vous allez voir qu'une des raisons pourquoi il n'a pas commencé à évangéliser en Pamphylie, ça va être dit la semaine prochaine, pourquoi il s'est rendu tout de suite à Antioche, on va essayer de voir ça ensemble, et pourquoi à la fin de son voyage-là, il va évangéliser la Pamphylie, et à partir du port, il va retourner chez eux avec Barnabas à Antioche. Mais il faut absolument réaliser à quel point, si ce n'était pas, non pas de la personnalité de l'apôtre Paul, ni Barnabas, mais la qualité de la lumière qu'ils ont. La gloire est à Dieu seul qu'un serviteur marche avec Dieu. Et ce travail, c'est le travail du Saint-Esprit de continuellement détruire notre justice propre dans laquelle on se réfugie si facilement et qui est la cause de toutes nos misères et qui fait qu'on ne connaît jamais le chemin de la paix pour vraiment trouver celui que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Mais ce chemin de paix commence avec une pleine condamnation. Plus vous allez voir à quel point vous êtes condamnable, moins vous allez avoir de griefs contre les autres, plus ça va être facile de pardonner ceux qui vous ont fait du tort, et plus vous allez avoir d'une reconnaissance incroyable envers Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Fait que Seigneur, toi seul peux nous vaincre. Car cette forteresse qu'on monte autour de nous les uns contre les autres, ce n'est pas nos faiblesses et nos péchés, entre guillemets, mauvais, négatif. C'est encore une fois ce qui nous distingue. Car tes ennemis se sont trouvés beaucoup plus chez les gens bien que chez les gens mauvais. Les gens mauvais étaient vaincus. Ils ne rencontraient plus même les standards du prince de ce monde. Par contre, quand tu es venu annoncer une bonne nouvelle à l'humanité, tu n'étais pas surpris de savoir que c'est les pauvres en esprit. C'est ceux qui sont rejetés. Entre un Nicodème qui a beaucoup à perdre et une Samaritaine qui a tout perdu, il semblait être beaucoup plus facile pour la Samaritaine de retourner vers son village en courant pour dire « Il m'a annoncé, il m'a tout dit de ma vie », qui était entre autres mots « J'ai tout perdu. Je me cachais du village parce que j'avais échoué. Et elle retourne avec une joie incroyable, pas pour parler de ses fautes, mais pour parler de celui qui ne l'a pas condamné, qui prend sa place, qui va en mourir de la laisser libre. Fait que Seigneur Jésus, s'il vous plaît, continue à produire en nous ce zèle pour qu'on puisse se déployer, organiser nos budgets de temps, d'argent, de vie, pour que le message sorte. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, être vraiment une armée qui travaille ensemble, chacun selon nos portions. S'il me manque quelque chose, un frein doit l'avoir. Et si je peux contribuer à ce frein, on peut mieux travailler, de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur. S'il vous plaît, Seigneur, viens à notre secours. La tâche est immense et tu dis qu'on a tout pleinement en toi. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Tout est pleinement ici. On peut le faire. On peut faire ta volonté. Alors, enseigne-nous, dirige-nous. Et merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Et à toi seul, la gloire. Amen. Amen. Amen.